Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte assez percutant. Logica absurda et contra epistemologis. Il jette un regard critique sur la recherche en sciences sociales au Mexique.
Oui, l'idée centrale, c'est que cette recherche serait souvent, disons, faussée.
Faussée par quoi exactement? Le texte parle d'une logique absurde.
C'est ça, une logique héritée de l'histoire coloniale, des méthodes pas toujours adaptées, et puis des influences politiques. Tout ça mènerait à une forme d'exclusion.
D'accord. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu ces critiques et les alternatives qui sont proposées. Allons-y. Alors, cette fameuse logique absurde, qu'est-ce que ça cache? Le document suggère que la logique formelle, classique, type Aristote, elle colle pas toujours aux réalités sociales mexicaines.
Exactement. C'est comme essayer de faire rentrer un rond dans un carré, parfois.
Il y a un chiffre qui frappe, cité par le texte, d'une étude REDMEX de 2022. Presque trois quarts, 73% des formations universitaires de troisième cycle n'auraient pas de cours de logique.
C'est quand même fou, oui. Et ça a des conséquences. Le texte cite l'exemple d'une étude de l'INEG, l'Institut Stat, en 2019.
Ah oui, celle sur le Chiapas.
C'est ça. Elle liait un peu vite pauvreté et violence domestique, enfin un peu vite, en oubliant plein d'autres facteurs hyper importants dans cette région.
D'accord, c'est une critique méthodologique en fait.
Oui, mais ça va plus loin. Ça renvoie à des critiques philosophiques plus larges. On peut penser à Kant, aux limites de la raison, ou bien sûr à Foucault.
Foucault et les régimes de vérité?
Tout à fait. Comment le pouvoir, en gros, définit ce qui est considéré comme vrai, comme savoir légitime, le discours sur la guerre contre la drogue au Mexique par exemple.
Oui, oui.
Ben, il a permis de justifier une militarisation énorme. Alors même qu'un rapport du JEERI en 2023 montrait que 68% des violations des droits humains signalées dans ce cadre impliquaient les forces armées.
C'est énorme.
Voilà. Et ça rejoint la critique de l'eurocentrisme, portée par des gens comme Henrique Dussel. L'idée qu'il faut décoloniser la raison elle-même.
Décoloniser la raison, ok. Mais alors, sur le terrain, pour les chercheurs, ça change quoi? Comment ça se traduit dans les méthodes?
Mais justement, le document met en opposition les méthodes souvent importées, jugées eurocentriques, et puis des approches alternatives, qu'on appelle décoloniales.
Et ça existe concrètement?
Oui, oui. Le texte donne des exemples. Le CIESAS, un centre de recherche connu, qui essaie d'intégrer les savoirs indigènes. Ou des recherches à Oaxaca qui valident les savoirs locaux sur les plantes médicinales, par exemple. On sort du modèle unique, quoi.
Ça touche aussi l'éthique, j'imagine, hein? Pas juste le consentement signé.
Ah oui, carrément. On parle de réciprocité, de s'assurer que la recherche apporte vraiment quelque chose à la communauté. C'est l'idée de la recherche-action participative, l'IAP.
Où chercheurs et populations travaillent ensemble.
Exactement. Comme ce projet sur l'eau contaminée à Iztapalapa, co-construit avec les habitants. Mais ça soulève une autre question, difficile.
Laquelle?
La fiabilité des données. Parfois, les chiffres, c'est le grand écart.
Ah bon?
Oui, exemple donné pour 2022. Chiffres officiels, moins 30% d'homicides. Chiffres d'ONG comme Semaforo Delictivo, basés sur les hôpitaux, plus 15%.
Ah oui, quand même, c'est pas du tout la même histoire.
C'est ça. Ou le recensement de l'INEG en 2020, qui aurait oublié 1,2 million de personnes dans les zones marginalisées, selon une autre instance, le Coneval. Donc sur quoi on se base?
C'est là qu'on touche aux politiques et à ce que le texte appelle la violence épistémique, l'idée qu'on fait taire certains savoirs.
Exactement. Comment le système, l'État, le néolibéralisme influence ce qui est recherché et comment? Le système national des chercheurs, le SNI, est pointé du doigt.
Pourquoi?
Parce que ces incitations, pour avoir des promotions, etc., pousseraient à publier à l'international sur des sujets parfois déconnectés des urgences locales.
Comme la pauvreté.
Oui. Une étude de l'UNAIS montrait qu'entre 2015 et 2023, il y avait beaucoup plus de thèses sur l'entrepreneuriat que sur la pauvreté. Alors que, bon...
C'est un sujet crucial au Mexique.
Ben oui. Et puis, il y a le côté plus sombre. La pression, la criminalisation de la pensée critique. Le texte rappelle un chiffre terrible, 42 universitaires assassinés entre 2000 et 2023, selon la CAAV. Sans parler de l'espionnage type Pegasus.
C'est glaçant. Mais face à ça, est-ce qu'il y a des résistances, des savoirs alternatifs qui émergent quand même?
Oui, et c'est un point essentiel du document. Il parle de contre-épistémologie, des savoirs produits hors des institutions, souvent par les mouvements sociaux.
Par exemple?
Le Congrès national indigène, qui fait ses propres cartes pour documenter les spoliations de terres. Ou les radios communautaires, qui donnent une autre info.
Une façon de lutter contre la dépendance intellectuelle.
Tout à fait, parce que la dépendance est forte. 85% des théories citées seraient européennes ou nord-américaines, selon Redmex en 2023. D'où cet appel dans le texte à évaluer la recherche différemment, peut-être plus sur son impact social que sur les classements.
Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, ce qu'on comprend, c'est que la recherche sociale au Mexique fait face à d'énormes défis. L'héritage colonial, le poids du politique, des questions de méthode, le texte appelle à une rupture en fait.
C'est ça. Une rupture pour aller vers des approches plus critiques, plus ancrées dans le réel local et plus éthiques dans leurs relations aux communautés.
Une transformation profonde.
Oui. Et peut-être pour finir sur une question qui reste ouverte. Au-delà des méthodes, le vrai défi, finalement, ce serait pas de repenser ce qu'on considère comme un savoir valide, et surtout, qui a le pouvoir de le définir? S'inspirer des savoirs nés des luttes locales, ce serait peut-être ça la clé.